marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les casseurs seront les payeurs.
La première loi anti-casseurs, 1970.
Si, du fait d'un rassemblement interdit ou illicite, sont commis des violences, voies de fait, eh bien, les chefs et organisateurs de ce rassemblement, qui, à partir du moment où les désordres commencent, n'auront pas donné l'ordre de dislocation, seront punis de 6 mois à 3 ans de prison. Et les participants volontaires qui, après le commencement des désordres, sciemment ne se seront pas retirés, seront punis de 1 mois à 2 ans de prison.
Léo Hamon, le porte-parole du gouvernement en 1970, c'est drôle. On parle de loi anti-casseurs en 1970 comme aujourd'hui, sans que soit désigné à l'opinion publique et au jugement de l'histoire les noms des responsables de ces textes. Il est vrai que leur identification est difficile. Cette année, 2019, l'origine du texte est à chercher dans une proposition de loi déposée par le sénateur LR Retailleau. Elle a été relevée et modifiée par le gouvernement d'Édouard Philippe, qui l'a fait voter par l'Assemblée. 50 députés macronistes l'ont refusée parce qu'ils la trouvaient trop antilibérale. Bruno Retailleau, le père putatif, l'a reconnue tout en la considérant comme trop libérale. Et ce jour, le Sénat renonce à la discuter et la laisse passer telle qu'elle. C'est ainsi qu'à l'issue d'on ne sait pas bien quelle gestation par autrui, cette loi arrivera à son terme. Sauf que le président de la République lui-même ne semble plus si sûr de s'y retrouver puisqu'il a annoncé en Conseil des ministres qu'il la soumettrait de son propre chef au Conseil constitutionnel. 1970 maintenant. Le recours au Conseil constitutionnel n'était pas établi comme aujourd'hui et le Sénat jouait davantage son rôle de défenseur des libertés publiques. En tout cas, on n'identifiait pas beaucoup mieux les auteurs de la loi anti-casseurs de l'époque. Suivez. Elle avait été préparée par le garde des Sceaux, le centriste René Pleven, un grand de la France libre. Elle servait en réalité les intérêts du ministre de l'Intérieur, le très réactionnaire Raymond Marcellin. Elle avait été défendue par le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas. En réalité, elle correspondait beaucoup plus aux conceptions du président Pompidou. En 1970, les deux têtes de l'exécutif s'éloignaient de plus en plus. Chaban voulait une nouvelle société. Pompidou était d'abord préoccupé de l'ordre, de la sécurité, de la prospérité des honnêtes gens. Pompidou cultivait la majorité qu'il avait constituée, tandis que Chaban voulait l'élargir. C'était une suprême habileté du président Pompidou de faire monter en première ligne pour défendre un texte qui empêchait l'ouverture, ceux-là même qui, dans son camp, la souhaitaient.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jean-Marie Delarue, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Nous avons besoin d'être subtils aujourd'hui, c'est pour ça que je fais appel à vous. Alors, le public vous connaît bien à cause des fonctions de contrôleur général des lieux de privation de liberté que vous avez longtemps exercé. On se souvient aussi que, dans le millénaire précédent, enfin à la fin du millénaire précédent, vous étiez directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur. C'est vous qui prépariez les textes ?
Certains d'entre eux, oui, mais en tant qu'ils relevaient exclusivement des attributions du ministère de l'Intérieur. Alors, à l'époque, on avait un garde des Sceaux qui aussi tenait sa place, qui s'appelait Elisabeth Guigou. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur tient beaucoup plus de place, en général, que le garde des Sceaux. Il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, contraster la place que tient le ministère de l'Intérieur dans les gouvernements depuis 20 ans, qu'il soit de droite ou de gauche. Avant, c'était le ministère de l'Économie et des Finances qui était la clé du gouvernement. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà.
On va faire un parallèle entre les textes de 2019 et de 1970. Parallèle hasardeux parce que on peut le dire quand même d'un mot, les principes ne sont pas les mêmes, même si le mot casseur est employé dans les deux cas.
Les principes ne sont pas les mêmes. La loi de 70 a pour objet de rendre responsables des manifestations et de leurs dégâts éventuels, corporels ou sur les biens, les organisateurs. La loi présente, actuellement débattue, a pour principe d'instaurer une sorte de police administrative des administrations, des manifestations, pardonnez-moi, en autorisant les préfets à interdire de manifestation certaines personnes. Donc on n'est pas sur une révolution juridique comme l'était la loi anti-casseurs de 1970. On est sur une extension des systèmes existants, qu'on peut très critiquer naturellement.
Je vais faire aussi appel à vos souvenirs, Jean-Marie Delarouille. Vous étiez un jeune prof d'histoire en 1970. Bah oui, le fait d'avoir été prof agrégé d'histoire, ça vous donne un peu de légitimité pour être à la marge de l'histoire. Vous n'êtes pas seulement un excellent juriste. Il y avait beaucoup d'agitation après 68. C'est ça qui justifiait pour René Pleven, le garde des Sceaux, et Raymond Marcellin, qui était posté en embuscade, le ministre de l'Intérieur, le surgissement de ce texte.
Je crois que ce qu'on dit aujourd'hui des 30 glorieuses fait penser que la prospérité s'est déroulée pendant 30 ans dans le luxe, le calme et la volupté. Mis à part quelques accidents notoires comme mai 68, on a oublié tout à fait qu'il y a eu des périodes un peu chaudes sur le plan social, et les années 70 débutantes sont une de ces périodes chaudes. En 1970, agitation des routiers qui pendant 3 jours bloquent les portes de Paris en mars. Agitation des commerçants et artisans déjà, je repense aux gilets jaunes, victimes de l'essor des grandes surfaces, etc. Et qui se plaignent du poids de la fiscalité, déjà.
Gérard Nicou,
le CID, pas encore fusionné avec l'UNATI. Mais les événements, justement, vont conduire à la fusion des deux organismes. Gérard Nicou est un agitateur qui sera condamné à de la prison ferme. Et il y a aussi les suites gauchistes de mai 68, où des étudiants s'agitent dans les facultés, occupent les bureaux, molestent un peu les personnels. L'image emblématique de tout cela étant Paul Ricoeur coiffé en mars d'une poubelle par les étudiants maoïstes de Nanterre, dont il était le président.
Et il avait du mal, Paul Ricoeur, quand il réagissait à ces événements, à faire la distinction entre les étudiants dont il espérait un mouvement organisé et puis, disait-il, les asociaux. Le mot casseur ne s'est imposé que progressivement. Témoignage de cette époque, ce chansonnier autorisé de la télévision publique.
C'était toujours la même histoire.
Histoire.
Quand on lui posait la question.
La question.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Je sais pas.
Moi, je veux devenir patron.
Ah bon, ah bon.
Il put sortir de sa détresse. En s'engageant un beau matin.
Oh là là.
Car on manquait de CRS.
Oh là là.
Pour boucler le quartier latin.
Voilà.
On lui demanda pas son diplôme.
Ah non.
Mais on lui donna un fusil.
Eh oui.
Il se sentit un nouvel homme.
Oh.
Tout fier de servir sa patrie.
Petit.
Qu'il en conquit des barricades.
Ah, ah, ah.
Jusqu'au jour où un pavé.
Là.
Lui mit la tête en marmelade.
Satan, aidé.
C'est ainsi qu'il fut pensionné.
Vous n'avez peut-être pas reconnu Gilles Daude, mais ça, c'est la bande du film Tout va bien de Jean-Luc Godard, le début de sa période de guérillero. En l'état actuel du droit, un certain nombre d'actes de violence échappent à la répression. Il faut modifier des articles du code pénal. C'est ça que propose la loi anti-casseurs de 1970, Jean-Marie Delarue.
Oui, en réalité, on peut se demander si les dispositions qui prévoyaient déjà des peines, des sanctions pénales pour les attroupements tournant mal, on va dire les choses comme ça, n'étaient pas suffisantes. Je crois qu'en réalité, dans des périodes d'agitation, le pouvoir politique est toujours pris entre la nécessité, évidemment, de poursuivre les trublions, mais
c'était le mot de l'époque, trublions.
La nécessité de montrer aussi à ses électeurs qui sauvegardent, comme il convient, l'ordre établi. Et par conséquent, il faut toujours une loi. Et donc, dans ces périodes d'agitation, il y a toujours des lois qui sortent. On a vécu ça dans les périodes terroristes que l'on sait dans les années récentes, mais on a vu ça aussi dans les périodes d'agitation sociale, c'est le cas en 70. Mais de fait, il y a des manifestations très violentes qui relèvent de formes un peu nouvelles, d'occupation de locaux administratifs, notamment universitaires, de violence. Il y a des attentats aussi à la bombe, dont il a été avéré plus tard qu'il était l'auteur de gens plutôt situés à droite, quand même, de l'échiquier. Et donc tout ça incite le gouvernement à poser une réaction qui va, dit-on, s'en prendre à la liberté de manifester, d'où l'enjeu.
Oui, mais l'habileté, c'est de prendre pour rapporteur à l'Assemblée nationale
un centriste.
Ce texte, un centriste, un résistant, Eugène Claudius Petit, qui n'est pas loin de dire que Il a adouci un certain nombre de dispositions, obtenant une différenciation entre les commandos de force, vous voyez, déterminés, et puis les manifestations qui involontairement tourneraient allègres.
Ni le droit de réunion, ni le droit de manifestation n'est mis en cause par le texte qui est soumis à vos suffrages. Cette notion de responsabilité civile collective est déjà incluse dans le code dans au moins 3 articles. Donc le texte nouveau ne présente donc pas un danger plus grand que les dispositions actuelles du code. Il permet simplement une application plus souple d'une loi qui doit ramener ici dans notre pays la paix, alors que l'on voit en ce moment la violence se déchaîner.
Oui, mais tout de même, responsabilité collective, il y a la question de la responsabilité pécuniaire.
Voilà. Alors,
les casseurs seront les payeurs.
Sur ce point, Claudius Petit, si je puis dire, fait erreur, volontairement ou non. Ce qui est différent entre les actions concertées, à force concertée, les actions concertées à force ouvertes, comme on dit dans le texte, d'une part, et les manifestations qui dégénèrent d'autre part, jouent pour les peines de prison applicables. Elles sont plus sévères dans les actions concertées à force ouverte que dans les autres. Mais pour ce qui est de la responsabilité pécuniaire, la loi dit toutes les personnes condamnées pour un des délits qui précèdent, c'est-à-dire actions concertées ou manifestations qui dégénèrent, seront responsables pécuniairement. Donc sur ce point, il y a égalité stricte. Autrement dit, pour le maoïste qui y a occupé avec dommage la faculté de Nanterre, il risquera plus de prison, mais le cégétiste qui aura organisé sa manifestation du 1er mai qui dégénère, lui, il sera autant responsable pécuniairement que le maoïste dont je viens de parler.
Alors, on a des lettres à l'époque, et dans l'opposition, on invoque aussitôt l'exemple de Courbet, condamné pendant la Commune, ou après la Commune, à rembourser la réinstallation de la colonne Vendôme, dont on n'est même pas sûr qu'il ait assisté physiquement à sa démolition.
D'abord, l'histoire de la colonne Vendôme. Alors, soyons sérieux, j'admire beaucoup la peinture de Courbet, et j'ai pour ma part beaucoup d'admiration pour l'œuvre de la Commune de Paris. Mais si vous voulez dire que quelqu'un qui, comme Courbet, décide et réalise l'écroulement d'un monument public ne risque pas d'être poursuivi pécuniairement, c'est une idée singulière. Si demain, croyant imiter Courbet, et se trompant d'ailleurs du tout au tout, des manifestants décident de démolir la Sainte-Chapelle, par exemple, votre avis est-il qu'ils n'ont pas de responsabilité pécuniaire? Il faut être sérieux dans les exemples que l'on est parlant. Maintenant, laissez-moi continuer, je ne vous ai pas interrompu.
Pour les manifestants, d'accord, mais pour ceux qui assistent
alors,
à cela,
c'est un autre argument.
Qui sont dans le rassemblement...
Attendez, vous ne perdez rien pour attendre.
Je prends un exemple très précis. Il s'agit de la participation volontaire au rassemblement. Qu'est-ce que ça veut dire, la participation volontaire à un rassemblement? Vous êtes badaud, vous regardez. Eh bien, vous, simplement badaud, curieux, touriste, spectateur, ou simplement quelqu'un qui n'a pas pu s'en aller, parce que c'est pas très facile de s'en aller, il suffit qu'un brigadier assermenté constate votre présence pour que vous ayez les peines que le ministre a indiquées, et pour que, en plus, vous puissiez être condamné à rembourser la totalité des dégâts, c'est-à-dire comme le peintre Courbet a travaillé toute votre vie durant pour rembourser la restauration de la colonne Vendôme.
Attendez, vous ne perdez rien pour attendre. Vous vous souvenez de ce duo fameux, Jean-Marie Delarue?
Hamon, Léo Hamon, ministre porte-parole du gouvernement, et Maurice Duverger, prof universitaire bien connu pour sa défense des libertés.
Et ce duo fonctionnait assez souvent oui. À la télévision.
Oui.
C'est vrai quand même cette histoire du badaud qui est coincé rue Saint-Jacques. Alors, et qui va devoir payer pour les dégâts commis boulevard Saint-Michel?
En principe non, puisque la loi dit celui qui rejoint volontairement la manifestation. Mais en réalité, les distinctions sont très très difficiles à faire de façon incontestable dans une manifestation où il y a beaucoup de mouvements, comme chacun sait. Et d'autre part, la police sait lui donner un pouvoir considérable. Ce que dit Maurice Duverger n'est pas inexact. Si quelqu'un d'assermenté témoigne de ce qu'il a vu, un badaud rejoindre volontairement, alors tout est possible. Donc je crois que la loi, d'une part, contrevient au principe élémentaire du droit français selon lequel, sauf exception. On n'est jamais responsable que de son propre fait. Et d'autre part, elle risque d'entraîner matériellement des confusions gravissimes, en effet, et à mettre sur la charge de personnes physiques des sommes considérables.
C'est de la loi de 70. Hein,
c'est la loi de 70.
Que nous parlons, bien sûr. Cette loi passe à l'Assemblée nationale.
Oui. Elle passe à l'Assemblée nationale. Nous sommes dans une assemblée qui a été composée par les élections de 68, faut-il le rappeler. Et par conséquent, elle est très majoritairement à droite. Mais les principales inquiétudes viendront non pas des centristes que vous évoquiez, mais de l'UDR, c'est-à-dire les ancêtres des Républicains.
Et même d'Alexandre Sanguinetti.
Exactement.
Un drôle, enfin, un bagarreur qui dit attention, cette loi, elle peut être mal appliquée. Et puis les oppositions vont venir surtout du Sénat.
Au chapitre politique, les sénateurs ont fortement amendé, on peut le dire, la nuit dernière, le projet de loi anti-casseur adopté en première lecture, Alf Matto, par l'Assemblée nationale le 30 avril dernier.
En effet, les sénateurs ont rejeté les dispositions du texte qui engagent, sous certaines conditions, la responsabilité collective des personnes qui participent à une manifestation interdite, une manifestation au cours de laquelle des violences auraient été commises. Ces rectifications ont paru si importantes que le garde des Sceaux, M. René Pleven, qui défendait le projet, estime que le texte, et je le cite, est ruiné pour l'essentiel. Au début de la semaine prochaine, donc, une commission paritaire, députés, sénateurs, tentera de mettre au point un projet transactionnel qui pourra ensuite être adopté, qui pourrait être adopté par les deux assemblées.
On parle de la loi de 70, hein, pas de celle d'aujourd'hui, ni du Sénat d'aujourd'hui. Mais le rôle du Sénat avait été requinqué par l'échec du général de Gaulle, qui avait voulu le réformer pendant son référendum d'avril 69.
Mais c'est vrai que dans la période récente, le Sénat a montré assez régulièrement, moi j'en ai bénéficié quand je m'occupais des prisons, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'un certain attachement, ou même d'un attachement certain aux libertés publiques. Ça s'est manifesté à ce moment-là, en effet. Fait à propos de la loi anti-casseurs. Ils ont écarté, ils ont maintenu tout ce qui était les actions concertées à force ouverte, mais ils ont écarté tout ce qui concernait les manifestations.
Commission paritaire.
Et qui a donné entièrement raison à l'Assemblée nationale. Comme
le Sénat est obligé de s'aligner, bien sûr, dans ces circonstances. Quand il ne devance pas les avis de l'Assemblée nationale, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est drôle, il y a le même nombre d'opposants
à l'Assemblée nationale et au Sénat, 94. Mais 125 pour au Sénat et 59 abstentions. Donc on pourrait dire que les choses sont à peu près équilibrées. À l'Assemblée nationale, sauf erreur, 375 voix pour et 94 voix négatives et très peu d'abstentions.
Alors vous vous souvenez de Hamon et du Verger et Dominique Grange, la grande chanteuse contestataire de l'époque.
Que la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Crépines, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Marie Delarue, la première loi anti-casseur en 1970. Celle de 2019 a l'air de passer dans une relative indifférence. Un grand ohu-bohu accompagnait le vote de 1970 jusque dans les enceintes parlementaires.
Oui, j'avais recueilli pour cette émission ce mot de Michel Rocard, député récent des Yvelines, de Conflans-Sainte-Honorine, disant au gouvernement: vous vous accrochez à la répression parce que vous avez peur, et vous avez peur parce que vous ne comprenez rien à ce qui vous arrive.
Et un tohu-bohu à l'Assemblée, parce qu'il n'était pas jugé légitime, le jeune Michel Rocard. Et à un autre moment, Mitterrand traite Charles Pasqua d'imbécile. Alors qu'ils ont une certaine estime réciproque.
C'était
vous pourriez
animé.
En témoigner, oui.
Absolument.
Vous pourriez aussi réfléchir avec nous, Jean-Marie Delarue, sur l'application de la loi. Votre dernier livre chez Dalloz, c'est l'effectivité des mesures prises à l'égard des prisonniers. Sont-elles appliquées réellement? Alors, la loi
il est
de 70, dans quelle mesure est-elle appliquée?
Je pense qu'elle l'a été dans les cas de troubles sérieux, assez régulièrement par les tribunaux. Il y a toute une jurisprudence qui s'est constituée. À ma connaissance, il n'y a aucun bilan proprement quantitatif, c'est-à-dire du nombre de personnes condamnées sur le fondement du nouvel article 314 du Code pénal. Mais peut-être que ça existe, il faudrait sans doute y réfléchir davantage que je ne l'ai fait. Quoi qu'il en soit, on est à peu près sûr qu'il y a eu des applications, et il y a des gens qui ont été en effet condamnés sur la base de ces dispositions. Par exemple, au moment des événements 7 ans après, de Crémalville, qui sont une manifestation contre une nouvelle centrale nucléaire. Il y a eu même, je crois, à un moment donné, une application de cette loi pour un concert punk à Nice, donné par un groupe anglais qui s'appelle The Stranglers, les étrangleurs, qui a mal tourné, et on a appliqué aux organisateurs de ce concert la loi anti-casseurs. C'est dire que, comme l'avaient craint les adversaires de cette loi, elle n'a pas visé uniquement les manifestations sociales ayant dégénéré de façon violente. Elle a été un peu appliquée tous azimuts, dans tous les cas de figure possibles.
On va prendre deux exemples de contestations qui tournent mal et qui vont entraîner une comparution correctionnelle de leaders. Les manifestations d'agriculteurs bretons, récurrentes, et les manifestations de sidérurgistes. Les sidérurgistes d'Usinor de Nain, en mars 1979, se dirigent vers la capitale, venue de leur ville et passant par Saint-Denis.
Un seul et unique thème à cette importante démarche, défendre et sauver la sidérurgie. Arrivés en gare de Saint-Denis, près de Paris, les manifestants ont été accueillis par les représentants CGT de la région parisienne. La longue marche vers la capitale commence. Le cortège se rendra au second rendez-vous des travailleurs, la place de la République.
Et bien que lancée par la CGT, cette manifestation dégénère avec des pillages. Et un certain nombre de prévenus comparaissent en correctionnel et font l'objet de ce jugement provisoire de Paul Lefebvre, qui était le chroniqueur judiciaire de la télévision à l'époque.
J'ai prévenu trois groupes. D'abord, ceux qui viennent casser du fric, si on peut dire, pour le plaisir, et dont les convictions politiques me semblent aussi légères que leur foulée devant une charge de CRS. Puis les pillards, qui profitent de l'occasion pour remonter leur garde-robe, quitte à briser une vitrine pour faciliter la manœuvre. Et puis les vrais, entre guillemets, les vrais qu'on appelle tous autonomes par facilité de langage. Force, tout de même, est de constater qu'on arrête plus facilement les pillards et les bagarreurs que ceux que j'appellerais les politiques, ceux qui décident de transformer les manifestations en tohu-bohu, ce mot étant pris au sens de la Genèse, c'est-à-dire chaos.
Vous n'êtes pas très sûr de la qualité de la typologie de Paul Lefebvre, ces trois types-là.
Non, en vrai, on n'est jamais sûr d'une typologie qui n'a pas beaucoup de sens. Je crois que dans toute manifestation sociale, ce qu'il faut mesurer, c'est la colère de ceux qui y participent. Je renvoie aux analyses de Danielle Tartakovsky sur les manifestations, aux formes euphémisées de la révolte, disait-elle, en gros. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut mesurer. Alors qui est là-dedans des éléments qui saisissent l'occasion? Peut-être, bien sûr, mais c'est toujours une question sociale, un malaise quelque part, qui suscite ces manifestations. C'est l'analyse de ces malaises qu'il faut faire d'abord.
La question de la loi anti-classeur était restée constamment à l'agenda de toute la gauche qui, en 1981, remporte l'élection présidentielle et la loi va être abrogé. C'était
pas en totalité.
C'était inscrit dans la mémoire de Mitterrand quand même, cette question.
Oui, absolument.
Pas en totalité.
Mitterrand était un des grands opposants à cette loi de 70. Et il y a eu deux versions du projet en 1981. L'un communiste qui proposait l'abrogation pure et simple des 6 articles de la loi et l'autre socialiste qui n'en proposait que des amendements. Et c'est la version socialiste qui a été en définitive retenue.
Trop quand même pour Alain Perfitte qui, après une brève éclipse, fait son retour en politique en 82.
Le fond du problème, c'est que l'on démantèle les défenses que la société avait dressées pour se protéger. Après avoir supprimé la Cour de sûreté de l'État, qui nous avait mis relativement à l'abri du terrorisme, qui ravage nos voisins. Après avoir supprimé la peine de mort sans peine de remplacement, contrairement à la volonté évidente de l'immense majorité des Français, après avoir supprimé la loi anti-casseurs, après avoir supprimé tout ce que notre code permettait pour protéger les honnêtes gens contre les malfaiteurs, voici que l'on continue et que l'on aggrave la même politique.
Les défenses foutent le camp. J'aimerais, plutôt que d'entendre votre commentaire sur Alain Perfit, que vous nous racontiez comment fonctionnait à l'époque, comment fonctionne aujourd'hui le recours au Conseil constitutionnel. En 1970, il n'y a pas eu de recours au Conseil constitutionnel.
En effet.
En 1971, Raymond Marcellin, sur sa lancée, après s'être attaqué via René Pleven au droit de manifester, veut s'attaquer au droit d'association. Et il imagine qu'à Paris, les associations qui se déclarent ne voient de récépissé leur être délivré que s'il y a un avis conforme du préfet de police. Et là, le Conseil constitutionnel va être amené à intervenir.
Oui, c'est pourtant une association gauchiste qui est en cause, puisque c'est Simone de Beauvoir, la cause du peuple, etc., qui sont derrière la nouvelle association. Et le Conseil constitutionnel censure le projet de loi en indiquant que le préfet doit délivrer un récépissé, quel que soit ce qu'il pense au fond de l'association. Et donc c'est la première décision très très significative du Conseil constitutionnel comme défenseur des libertés.
Le Conseil constitutionnel saisi, c'était beaucoup plus difficile la saisine qu'aujourd'hui par le président du Sénat, toujours lui.
J'allais y venir, le président du Sénat est dans l'opposition à l'époque, et seul le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat peuvent saisir le Conseil constitutionnel. La première grande réforme viendra avec Giscard d'Estaing en 1974, qui autorisera 60 députés ou sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité d'un projet de loi. Donc, l'opposition, c'est ça que ça veut dire, pourra. Et la deuxième grande réforme viendra de Nicolas Sarkozy en 2008, qui proposera, lui, au n'importe quel justiciable de saisir le Conseil constitutionnel d'une loi déjà votée pour lui poser la question de sa constitutionnalité. Donc, aujourd'hui, les choses sont plus ouvertes. Et la meilleure preuve, c'est que en 1995, lorsque Charles Pasqua a fait voter dans le gouvernement Chirac une première loi de programmation sur la sécurité, une disposition sur les manifestations avait été prise qui permettait aux policiers de fouiller les véhicules pour y trouver des armes. Cette disposition a fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés de l'opposition et sénateurs d'ailleurs. Et cette disposition a été censurée par le Conseil qui a joué là son rôle.
Le Sénat renonce à jouer son rôle aujourd'hui, laisse passer le texte tel quel, qui va donc être considéré comme adopté. Il y a déjà 75 députés qui sont dans les starting blocks, des députés de toutes les oppositions pour opérer un recours. Mais là, c'est le président de la République qui intervient.
Qui peut le faire, qui peut le faire.
Mais il a dit hier en Conseil des ministres, c'est moi qui vais recourir. C'est drôle.
La Constitution lui reconnaît ce rôle, donc c'est très bien qu'il le fasse. Mais c'est une façon de couper l'herbe sous le pied aux éventuels opposants et pour dire, c'est moi le garant du droit. Mais c'est très bien joué, donc il en a la prérogative, il en joue.
Merci à vous, Jean-Marie Delarue. Donnez-nous le titre de votre livre chez Dalloz. On est toujours curieux de l'activité que maintient l'ancien contrôleur général des lieu privatif de liberté.
Ça s'appelle En prison, tout simplement.
C'est un titre
avec comme sous-titre L'ordre pénitentiaire des choses.
Merci à vous. Cette émission avait été préparée par Nolwenn Bokri avec à la réalisation Audrey Ripouille, à la technique Loïc Frapsos. Mathieu Vidard.
Oui Jean, dans la tête au carré, la pollution au plastique et croyez-moi, ça n'est guère réjouissant, c'est le dossier de l'émission.
C'est la pollution au plastique, notamment dans les océans.
Absolument.
Ce qui justifie la présence
d'Isabelle Autissier.
D'Isabelle Autissier, en plus de vos autres invités. Merci à vous dans quelques minutes.